franceinter.fr.
Élue percée de l'année par la Société internationale de physique, cette semaine, la première détection des ondes gravitationnelles est la plus forte preuve observationnelle de la solidité de la théorie de la relativité générale écrite par Einstein en 1916. Elle confirme au passage l'existence des trous noirs, rien que ça. Mais ces ondes de l'espace et du temps vont peut-être également nous permettre de dépasser cette théorie pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur même des trous noirs, là où tout le monde rêve d'aller, mais là où probablement nous n'irons jamais, et même là où les lois de la relativité générale s'écroulent. Bonjour Alain Riazuelo.
Bonjour.
Vous êtes astrophysicien, chercheur à l'Institut d'astrophysique de Paris, auteur du livre sur les trous noirs, paru il y a quelques semaines chez Vuibert. Alors avant d'entrer dans l'après-théorie de la relativité générale, restons encore un peu et sur ce que sont les ondes gravitationnelles, détectées donc par LIGO en février dernier. Vous nous rappelez le principe quand même, parce que c'était une des grandes découvertes de
l'année. Oui, une des grandes confirmations, la confirmation d'une très longue attente. L'idée des ondes gravitationnelles, c'est que d'après la théorie de la relativité, l'espace n'est pas parfaitement rigide, il est un peu souple, un peu élastique. Ouais. Et quand des masses importantes s'y déplacent à grande vitesse, elles font un peu vibrer cet espace. Et ces plus fortes vibrations sont produites quand deux trous noirs entrent en collision. Et c'est ces vibrations-là que l'on peut détecter à très grande distance avec une instrumentation très sophistiquée, qui nous permet de détecter et de mesurer très précisément la masse de trous noirs qui sont entrés en collision il y a des milliards d'années.
Voilà. Et là, c'était la première fois donc qu'on faisait cette détection directe, voilà. Qui provient d'une collision qui s'est passée il y a un milliard d'années.
Oui,
un
peu plus que ça. Ça s'est produit même il y a plus longtemps que ce qu'on pensait, parce que les trous noirs en question étaient plus gros que ce que l'on pensait, donc on a pu les voir à plus grande distance. Et donc aujourd'hui, on se demande si les prochaines détections vont pas nous révéler que les trous noirs sont un peu plus massifs que ce qu'on imaginer jusque-là.
Mais qu'est-ce qui se passe alors quand deux trous noirs fusionnent? Est-ce qu'on est capable de le décrire facilement pour qu'on imagine ce qui se passe?
Alors facilement, non. C'est un des problèmes les plus compliqués qui soient à modéliser d'un point de vue informatique. Mais aujourd'hui, on sait suffisamment bien décrire ce qu'on appelle la phase spiralante, c'est-à-dire le moment où les trous noirs tournent l'un autour de l'autre à une distance respectable. On sait par le calcul analytique, je dirais, faire des prédictions très détaillées de ce train d'ondes gravitationnelles. Et on sait aussi, grâce à des simulations numériques extrêmement complexes, modéliser la phase finale de la fusion, qui est un problème très difficile, mais qui est absolument indispensable pour pouvoir interpréter les données mesurées par ces détecteurs d'ondes gravitationnelles.
Juste une parole, la fusion, c'est pour notre ami Experiment Boy, c'est une énorme explosion. Hein.
Alors, je ne sais pas si on peut appeler ça une explosion, mais c'est la libération d'énergie la plus violente qu'on puisse envisager dans l'univers, puisque les deux trous noirs dont on a détecté les ondes, ils ont fusionné dans un volume qui fait quelques centaines de kilomètres de rayon, finalement. Et si on transcrivait en son l'énergie de cette explosion qui nous est parvenue jusque par l'intermédiaire de ces ondes gravitationnelles, alors que ces ondes ont voyagé pendant un milliard d'années, sur un milliard d'années-lumière, donc 10 000 milliards de milliards de kilomètres, le son, c'est encore 90 décibels.
Ah oui, quand même.
Donc
c'est
absolument fantastique. Pendant la période de cette fusion, l'énergie qui est libérée dans cette toute petite région de l'espace est supérieure à l'énergie rayonnée par les étoiles de tout l'univers observable pendant la même période.
Ça, Experiment Boy, vous ne le ferez jamais dans votre jardin. C'est foutu, là.
Là, j'arrête, je repose la blouse tout de suite. Mais comment on arrive à avoir autant de précision avec des ordres de grandeur pareils, quoi? C'est ça qui me...
Alors, c'est même pour les astrophysiciens qui sont habitués aux ordres de grandeur astronomiques, n'est-ce pas, ces phénomènes-là, quand on les a détectés pour la première fois, dans les couloirs, tout le monde en parlait, les gens se disaient... Quand même, qu'est-ce que c'est violent ce truc? On était quand même un peu à la limite de l'extravagance des ordres de grandeur astrophysiques. Et d'ailleurs, on pense qu'on peut pas faire plus violent, plus brutal dans l'univers actuel.
Depuis février, j'imagine que ce signal a été travaillé, décortiqué, interprété dans tous les sens par beaucoup de physiciens. Et il y a cette semaine un groupe de physiciens qui propose d'aller plus loin. Et ils ont vu quelque chose dans ce signal, ils ont vu une forme d'écho. Pourquoi c'est important cet écho-là dont tout le monde parle ?
Alors, ça vient du fait que on n'est pas sûr que les lois de la relativité générale qui semblent régir tous les phénomènes gravitationnels connus, on n'est pas sûr que ces lois soient parfaitement valables. Et si elles ne sont pas valables, l'écart le plus manifeste a des chances d'être au voisinage des trous noirs. Donc les trous noirs sont en ce sens un très bon laboratoire pour tester ces lois. et donc tester d'éventuelles déviations. Donc ce que des auteurs ont commencé à proposer dans le courant de l'année, c'est des scénarios qui sont encore à l'état d'ébauche, on n'a pas des prédictions très très quantitatives, où lors de cette fusion, à cause de la structure de la frontière qui sépare le trou noir de l'extérieur, ce qu'on appelle l'horizon, il y aurait une sorte d'écho qui se répéterait quelquefois à l'issue de cette collision. Et donc, suivant ces idées qui, je précise, sont pas encore très quantitatives, des gens se sont dit, essayons de regarder dans les données si on peut voir un faible écho, une fraction de seconde après l'instant de la collision. C'est ce que ces gens-là ont cherché et ils ont trouvé quelque chose d'un peu inattendu.
Mais ça remettrait en cause la théorie de la relativité générale ou pas alors?
Ça remettrait en cause son domaine d'application. En l'état actuel, on pense qu'elle décrit parfaitement les trous noirs et les collisions des trous noirs. Si jamais la structure qui décrit le bord d'un trou noir est différente, alors la théorie doit être remplacée. Et de toute façon, on sait qu'à l'intérieur des trous noirs, vraiment au centre,
ça ne fonctionne plus.
Cette théorie ne fonctionne plus.
Les lois ne fonctionnent plus.
Voilà, mais comme on n'est pas capable de ressortir d'un trou noir pour dire ce qu'on a vu à l'intérieur, cette question, elle est pour l'instant académique. Par contre, si au voisinage d'un trou noir, il se passe quelque chose, on peut espérer l'observer via ces détections d'ondes gravitationnelles.
Pourquoi à l'intérieur, au centre du trou noir, on n'applique plus la théorie de la relativité générale ?
Alors la raison, c'est que la théorie de la relativité générale, elle marche sur des grandes échelles et que les lois qui régissent le monde microscopique, ce qu'on appelle la mécanique quantique, elles marchent à toute petite échelle et que pour des raisons techniques qui seraient très difficiles de résumer en 30 secondes, ces deux lois ne sont pas compatibles entre elles. Donc des champs gravitationnels très forts qui varient sur des distances très petites doivent tenir compte de cette théorie quantique et on ne sait pas comment le faire. Ces situations-là, elles se produisent certainement au centre des trous noirs et donc c'est pour ça qu'on sait que la théorie de la relativité générale ne marche plus. Ailleurs, il y a des chances raisonnable qu'elle marche.
Allez, une dernière question, Axel.
Oui, ça veut dire que les lois qui régissent l'univers ne régissent pas l'intérieur des trous noirs. C'est pas un peu paradoxal de finir par dire ça ?
Toutes les lois physiques ont un domaine d'application. Quand Newton dit la Terre attire la Lune et quelle que soit la distance entre la Terre et la Lune sent instantanément l'attraction gravitationnelle que produit la Terre, il a l'intuition que c'est pas très satisfaisant. Donc, il devine qu'il doit y avoir une sorte de vitesse de propagation de la gravitation et que sa théorie est incomplète. Mais il se trouve que sa théorie marche remarquablement bien pour décrire le système solaire. Donc, même si elle n'est qu'une approximation du réel, si l'approximation est suffisamment bonne pour être indistinguable d'autre chose par l'expérience, ça suffit pour faire des prédictions, ça suffit pour décrire le réel, même si on sait que il y a une réalité plus subtile, légèrement différente, qui nous échappe un peu.
Bon, il va falloir faire d'autres détections directes alors.
Voilà.
On les attend là pour bientôt ou pas ?
Oui, puisque donc cet instrument LIGO a redémarré il y a quelques semaines, pour à peu près un an. Il est un peu amélioré par rapport à la dernière fois, donc il devrait détecter plus facilement ces événements. Il en a détecté deux ou trois ces quatre derniers mois, donc là, dans l'année qui vient, il devrait en détecter peut-être une dizaine.
Eh bien, en attendant, on peut lire votre ouvrage « Les trous noirs » Alain Riazuelo, que vous signez chez Vuibert, pour ceux qui souhaitent plonger vers l'inconnu aux alentours de Noël. Merci beaucoup à vous et Axel. À lundi.
À lundi, Mathieu.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, la fracturation hydraulique contamine l'eau potable. Pour la première fois, l'Agence nationale américaine pour l'environnement reconnaît que la fracturation hydraulique pour l'extraction des gaz et huiles de schiste est potentiellement polluante pour les réserves d'eau profonde et ce, à tous les stades du processus. Une annonce tardive qui arrive après presque 10 ans d'exploitation et l'annonce de Donald Trump d'étendre et de renforcer cette pratique dans le futur. Justement, le futur président des États-Unis qui vient également de nommer le climato-sceptique Scott Pruitt à la tête de cette même agence nationale pour l'environnement. Record officiellement battu, la plus grosse vague océanique jamais enregistrée s'élève à maintenant 19 mètres. Elle a secoué une bouée de mesure automatique dans l'Atlantique Nord en février 2013. Le temps que l'Organisation Océanique Mondiale valide ce chiffre, le précédent record de 18,20 mètres date du 8 décembre 2007. Il aura donc tenu 9 ans. Et puis on termine avec une technique de vol inédite dans la nature, celle d'un petit lézard qui s'appelle Draco Dusumieri, qui vit dans les forêts tropicales d'Amérique du Sud. À la manière des amateurs de Wing Suit, ce lézard s'élance dans les airs depuis la canopée, étend rapidement ses bras en croix pour permettre à la membrane de peau située sous les bras de se tendre également pour planer. En étudiant plus de 54 vols photographiés en pleine nature, un jeune chercheur allemand explique que cette aile désolidarisée des pattes avant n'a pas d'équivalent dans le royaume animal. Elle est le seul cas où le système d'élévation et de commande sont contrôlés par des parties différentes du corps et doivent se coordonner au début du vol plané, contrairement aux exemples des écureuils planeurs qui eux se dirigent grâce à leurs quatre pattes. Le lézard lui contrôle directement la membrane. Une vidéo du vol du petit Draco est disponible sur la page Facebook de La Tête au Carré.